VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
13h à Dakar, 14h à Bangui. Bienvenue à notre journal. RCA, au moins 18 Centrafricains auraient été tués par les casques bleus du Congo-Brazzaville en mission en République centrafricaine entre décembre 2013 et juin 2015. C'est du moins ce qui ressort d'un rapport publié mardi par Human Rights Watch, l'organisation de défense des droits humains basée à New York. Comment faire cesser les exactions des casques bleus? La réponse de Philippe Bolopion, directeur de Human Rights Watch auprès des Nations Unies, au micro de John Lyndon.
La meilleure façon de mettre un terme à ces exactions, c'est de faire un exemple des soldats qui sont rendus coupables de ce crime particulièrement odieux. L'ONU peut faire toutes les circulaires qu'elle veut, elle peut promettre d'avoir une tolérance zéro pour ce genre d'exaction. Elle peut faire des rapports autant qu'elle le veut. Tant que des soldats pourront en toute impunité commettre ces crimes et ne pas être inquiétés ou être simplement renvoyés chez eux, eh bien, cela montre à tous les autres soldats qui restent déployés dans des pays en crise qu'eux-mêmes peuvent commettre ces crimes sans avoir à craindre de conséquences.
Philippe Bolopion de Human Rights Watch. Politique en RDC, Étienne Tshisekedi tente de convaincre l'opposition congolaise à aller au dialogue. L'opposant historique du Congo-Kinshasa a lancé cet appel à l'ouverture du conclave qui se tient depuis hier à Bruxelles, à son initiative. Mais il pose en même temps quelques conditions, Eddy Sango.
Etienne Tshisekedi a rappelé avoir exigé que les dialogues se tiennent sous la médiation de la communauté internationale, des exigences qui expliquent les hésitations constatées jusqu'ici. Selon le chef de l'UDPS, les facilitateurs Edem Kodjo devraient être assistés par 4 délégués des Nations Unies, de l'Union Européenne, des États-Unis et de l'Organisation de la Francophonie. Les dialogues devraient aussi, selon Tshisekedi, être précédés par la libération des prisonniers politiques. L'absence de Vital Kamerhe et du MLC de Jean-Pierre Bemba sont très remarquables à ces assises de 2 jours. Une bonne partie de l'opposition refuse de prendre part au dialogue, accusant M. Kabila de vouloir prolonger son mandat alors que la Constitution le lui interdit.
La dernière résurgence d'Ebola au Libéria est officiellement terminée ce jeudi, annonce l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Le Libéria était l'ultime pays encore touché par l'épidémie qui a ravagé une partie de l'Afrique de l'Ouest, la plus grave depuis l'identification du virus il y a 40 ans. Prudence cependant, affirment les experts, ces derniers rappellent que les précédentes déclarations de ce type par l'OMS ont été systématiquement accompagnées de la découverte de nouveaux épisodes localisés dans un des 3 pays d'Afrique de l'Ouest les plus touchés, à savoir Guinée, Sierra Leone et le Libéria bien sûr. La Cour de justice de la CEDEAO a condamné le Nigeria à verser plus de 3 millions de dollars de compensation aux familles de 8 civils tués et 11 autres blessés lors d'une opération menée près d'Abuja par des soldats et des membres des services secrets nigérians. Les précisions de Michel Joseph.
La Cour ouest-africaine a statué que l'armée n'a fourni aucune prévue de son assertion selon laquelle les soldats et membres des services secrets avaient agi en état de légitime défense dans la nuit du 20 septembre 2013 lorsqu'ils ont ouvert le feu sur des militants présumés de Boko Haram dans la banlieue d'Abuja. Les victimes squattaient une maison inachevée lorsqu'elles ont été prises pour cible. Qualifiant ces violences de barbares, d'illégales et d'anticonstitutionnelles, les 3 juges de la Cour ont ordonné au gouvernement nigérian de payer l'équivalent de 200 000 dollars par personne tuée et 150 000 dollars par blessé. La Commission nationale des droits de l'homme du Nigeria, qui avait enquêté au sujet de cette même affaire, avait demandé en vain au gouvernement nigérian de verser des compensations aux victimes et à leurs familles. Selon Amnesty International, les forces de sécurité nigérianes ont été responsables de la mort de quelque 8 000 civils dans le cadre de la lutte contre Boko Haram dans le nord-est du pays.
Corne de l'Afrique, les insurgés islamistes Shebab ont attaqué aujourd'hui un camp de l'armée éthiopienne dans le centre de la Somalie et affirmé avoir tué plus de 60 soldats appartenant à la mission de l'Union africaine AMISOM. La AMISOM confirme que l'attaque a eu lieu et déclare qu'elle a été repoussée par l'armée éthiopienne avec l'aide de militaires somaliens. Pour sa part, l'Éthiopie affirme que ses troupes ont tué 101 djihadistes pendant la bataille et subi quelques pertes.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Sous l'égide de l'ONU-SIDA, les 193 pays membres des Nations Unies sont réunis à New York du 8 au 10 juin pour la conférence annuelle de lutte contre le SIDA. Si l'épidémie est en déclin depuis 10 ans, il faut toutefois intensifier les efforts dans les 5 années à venir pour tenter de mettre fin à ce fléau d'ici 2030. Plus de détails avec Claire Morin-Gibourg.
Dès l'ouverture de la conférence, les pays membres se sont engagés à réduire le nombre de nouvelles personnes infectées par le virus chaque année. L'objectif, diminuer les 2,1 millions de nouvelles infections en 2015 à moins de 500 000 en 2020. Une déclaration faite malgré les réserves émises par la Russie, l'Égypte, l'Arabie Saoudite et l'Iran notamment. Ces pays reprochent à l'ONU-SIDA de trop concentrer leur attention sur certaines populations à risque, comme les homosexuels, les consommateurs de drogue par injection ou les prisonniers. Selon le directeur de l'ONU-SIDA, Michel Sidibé, il faut utiliser cette déclaration pour accélérer et pour atteindre les personnes qui restent dans l'ombre. Ces personnes qui ne se font pas détecter ou soigner par peur de la discrimination et de la stigmatisation. Malgré des progrès, l'épidémie est loin d'être jugulée. Il y a toujours 36,7 millions de personnes dans le monde atteintes du sida, dont la plupart en Afrique subsaharienne.
Ici aux États-Unis, deuxième jour du procès de deux Californiens accusés d'avoir conspiré pour rejoindre les combattants de l'organisation radicale islamique État islamique en Syrie. Nader El-Ouzayel et Mohamed Badawi, 25 ans tous les deux, et originaires d'Anaheim, près de Los Angeles en Californie, ont été arrêtés en mai l'an dernier par des agents fédéraux quand El-Ouzayel s'apprêtait à embarquer dans un avion à Los Angeles pour voyager vers la Turquie et rejoindre l'organisation djihadiste. C'est du moins ce qu'ont affirmé les autorités américaines. Football, retour sur le décès de Steven Keshi. Il fut l'entraîneur des Aigles du Mali d'avril 2008 à février 2010. Et aujourd'hui, le public sportif malien garde de lui le souvenir d'un grand bosseur, serein et toujours prêt à servir. À la Fédération malienne de football, son décès est qualifié de grosse perte pour le football africain, car il fait partie des rares footballeurs à remporter la Coupe d'Afrique en tant que joueur puis entraîneur. Kassim Traoré est notre correspondant à Bamako.
C'est l'actuel président de la Fédération malienne de football du Mali, Baba Diarra, qui a fait venir Stephen Keshi en avril 2008. Il était chargé de l'équipe nationale. Ainsi, d'avril 2008 à février 2010, Stephen Keshi était l'entraîneur des Aigles. Siré Diallo, membre de la Fédération malienne de football.
C'est un homme très affable et très gentil. Et il était très, très, très pieux. Il était toujours à l'église.
Son bilan n'était pas réalisant après la CAN d'Angola. Une victoire, un nul et une défaite. Et le Mali fut éliminé au premier tour. Il a été remercié. Moussa Boli travaillait à l'époque au ministère des Sports comme chargé de communication.
C'est quelqu'un qui est très ouvert, qui est très franc et qui est très disponible. Donc ce qui fait que chaque fois qu'il venait au ministère, c'était toujours pour essayer de façon collégiale comment aborder une difficulté, comment surmonter une difficulté, comment aplanir aussi souvent les différends avec la fédération. Sa malchance a été qu'il a géré l'équipe nationale du Mali à une période déjà où la fédération était dans une zone de turbulence parce qu'il a commencé avec Salif Keita et ensuite avec une partie du mandat du défunt Amadou Nkolado Cissé du Kola.
Badra Aïdra, vice-président de l'Association des journalistes sportifs du Mali, AJSM.
On a beaucoup travaillé ensemble quand il était l'entraîneur national des Aigles du Mali. Bon, je peux dire qu'aujourd'hui, c'est une grande perte pour le football africain. Je n'ai jamais vu un entraîneur comme Keshi. Il est courtois, il est très simple, il est social. Moi, je peux dire les raisons de son départ. Ça, c'était le fait que le Mali a été éliminé dès le premier tour, lors de la CAN 2010. Donc, je pense que c'est ça les raisons. Parce qu'en matière de football aussi, il faut les résultats. On recrute un entraîneur pour faire des résultats.
Keshi était d'un commerce très facile, toujours serein et un grand bosseur. Malgré sa fin de contrat en queue de poisson, il a beaucoup aimé le Mali. Moussa Boli.
Malgré la façon dont il a quitté le Mali, il n'a jamais gardé rancune. Et on était au même hôtel à Durban, on se côtoyait, il a tenu à saluer tous les responsables. Après la victoire du Nigeria, je dirais, il avait donné des instructions fermes pour que le Nigeria ne puisse pas faire soi d'une certaine façon à l'hôtel. Parce que nous étions dans le même hôtel. Il a demandé aux gens, on a gagné, mais vraiment, soyez fair play. Dites-vous que vous êtes avec des gens qui ont perdu et ce sont vos frères.
À la Fédération malienne de football, son décès est considéré comme une grosse perte pour le football africain. Dors en paix, Big Boss. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Et vous terminez, l'Euro 2016 de football commence demain en France, mais la tension sociale n'est toujours pas retombée dans le pays. Merci de votre attention. Plus d'infos sur notre site internet, c'est bien sûr voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.